Pavillon Nomade, le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. Et comme les images sont toujours plus belles à la radio, on va vous décrire l'endroit où nous sommes. C'est un nouveau studio, plus grand, parce que Pavillon Nomade devient une radio de référence. Et donc, elle va pouvoir vous accueillir ici, beaucoup plus nombreux. Il y a encore quelques ajustements à faire, mais on va déjà remercier toute l'équipe du quartier culturel de nous offrir cet espace. Aujourd'hui, un invité, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous de cet espace ?
Eh ben, c'est lumineux. Il y a une table suffisamment grande pour accueillir au moins 8 à 10 personnes.
Qui seraient bienvenues.
Ouais, parce que
d'accord.
Là,
on est encore entre nous, mais peut-être que les gens vont arriver au fur et à mesure.
Abandonnés.
Non, n'allons pas jusque-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait, selon vous, y ajouter dans cet espace, qui est assez lumineux, il faut dire, qui résonne pas mal, il me semble, mais voilà, il y a encore un tout petit peu d'aménagement acoustique à faire.
Oui, puis les murs blancs, j'aime pas.
Alors, qu'est-ce qu'on y mettrait ?
Ah bah, par exemple, des œuvres du CISA, par exemple, les grandes affiches qu'on a faites, on pourrait les mettre en valeur ici. Comme ça, les invités verraient en même temps les productions qu'on fait à l'atelier CISA, par exemple.
C'est une très, très bonne idée. Parlez-nous de cet atelier 6A.
L'atelier 6A. Alors, l'atelier 6A, c'est un atelier artistique auquel je participe depuis un an. Je commence la deuxième année. Où, principalement, il y a un artiste qui s'appelle Noé qui nous coach dans les productions qu'on fait. On fait principalement des œuvres sur des grands formats, formats affiches, comme les affiches qu'il y a publicitaires à l'extérieur. Chose que j'aime beaucoup parce que j'avais jamais travaillé sur des grands formats comme ça et c'est un truc qui me botte beaucoup. Après, la technique, c'est un peu comme on veut. On peut la pastel grasse, la pastel sèche, l'acrylique, un peu tout ce qu'on veut en fait. Il n'y a pas de limite au niveau de la technique. Et en général, ils nous proposent de travailler avec des projections sur rétroprojecteur. Donc on fait des montages sur un film transparent avec différents éléments qu'on trouve dans des livres, des anciennes gravures, des choses comme ça. Puis on projette sur l'affiche. Puis après, c'est un peu comme la décalco, quoi. Un peu comme si on... Mais après, on a aussi un espace de créativité au niveau des couleurs. Et même, on a le droit de dépasser. Hein. C'est pas fermé comme idée, quoi. On peut même faire d'ailleurs des trucs sans le support
technique. Ouais. Quelle est la technique qui vous plaît le plus ? Vous avez parlé d'acrylique, de collage, de découpage. Est-ce qu'il y a une technique qui vous parle plus ?
Non, moi, ce qui me botte, c'est les grands formats. J'aime bien ça. C'est vraiment travailler sur... c'est inhabituel pour moi de travailler sur une grande affiche, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Mais après, il y a aussi d'autres techniques qui sont proposées, comme on a pu faire des objets en terre cuite. Et ça, c'est une autre manière d'utiliser ses mains pour exprimer des choses. Et j'ai bien aimé aussi faire ça. C'est une deuxième proposition que Noé nous fait. Et une troisième proposition qu'il nous fait aussi, c'est de faire des slow motion avec l'appareil photo.
Donc, c'est-à-dire ?
On fait des photos, enfin, on fait ça avec lui. Hein. Mais il a un appareil de photo professionnel et on fait plein de photos et on fait bouger les objets. Et en l'occurrence, c'était des objets qu'on avait faits en terre cuite. Et puis, on a fait des petites animations avec les objets.
Oui, je vous écoutais, puis j'imaginais comme un dessin animé.
Comme un dessin animé, exactement.
C'est ça l'idée.
Oui. Et en plus, on peut faire un bruitage par-dessus, puis ça donne un petit film très, très sympa, quoi.
C'est génial. Ouais. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez découvert le côté artistique en vous grâce à l'atelier CISA, ou bien vous aviez déjà pratiqué des activités artistiques avant de venir au CISA ?
Non, en fait, bon, quand j'étais ado, j'avais fait un peu de photos, ça m'avait bien plu, un peu de, j'avais fait du développement, j'avais fait de la prise de vue, des reportages, choses comme ça, mais j'ai pas persévéré dans le truc. Autrement, j'ai jamais spécialement touché l'art avec les couleurs et tout ça. Et c'est un truc C'était resté un peu endormi chez moi, et puis j'avais envie de retrouver ce truc-là, de m'investir dans un truc plus artistique. Quand j'ai su qu'il y avait cette proposition au quartier culturel, j'ai tout de suite eu envie d'avoir ce rendez-vous dans la semaine. Quoi. C'est un truc.
Justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'atelier 6A, si je peux me permettre de vous poser la question?
Non, pas de souci. Ça fait la deuxième année que je fais l'atelier 6A, mais l'année avant l'atelier 6A, j'étais à l'hôpital de jour, où j'ai mis une année à peu près pour me stabiliser, à peu près, quoi. Enfin, non, pour me stabiliser tout court. Et dans le parcours de rétablissement, au début de cette année, l'année d'avant de l'atelier, j'étais quasiment à plein temps à l'hôpital de jour. Et puis sur une année, j'ai diminué petit à petit l'hôpital de jour, et ça a ouvert du temps pour faire d'autres choses. Et que je me suis retrouvé à la fin de l'année avec plus qu'une heure d'un groupe qui s'appelle Rétablissement. Et c'est là que j'ai pu connaître les ateliers du quartier culturel. J'ai fait un petit stage et puis j'ai vu que c'était l'atelier artistique qui me plaisait, quoi. Donc ça va dans la continuité de ce qui m'aide pour garder un équilibre dans mon rétablissement. Passé par d'abord l'hôpital de jour, on a fait des trucs plus thérapeutiques. Ce qui me plaît dans l'atelier artistique, justement, c'est pas du thérapeutique. C'est vraiment, on va dans le projet de l'artiste, on essaie de voir où il veut nous amener, et puis on se laisse guider. C'est pas pour aller, même si ça aide, moi ça me fait du bien d'exprimer avec les couleurs des choses, mais c'est pas le but en soi, quoi. Et ça me plaît bien.
Vous dites que ce n'est pas le but en soi, ça veut dire quoi?
Alors, ce n'est pas une thérapie. Quand je viens à l'atelier, je ne veux pas être en thérapie, justement. Je veux sortir de cette idée de... Parce que j'ai déjà le psychiatre une fois par mois, le psychothérapeute une fois par semaine. Au bout d'un moment, mon agenda, il est rempli de rendez-vous verts, parce que j'utilise des codes couleurs dans mon agenda.
Vous aussi?
Et le vert, j'en ai un peu marre, j'aimerais bien un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de violet. Et justement, l'atelier là, il est en violet, ça me va bien, c'est pas du vert.
Et ces couleurs, elles se retrouvent dans les propositions que vous faites, dans ces formats, ces grands formats d'affiches. Comment sont ces œuvres que vous faites? Est-ce qu'elles sont très colorées ou bien moins colorées? Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent régulièrement?
Alors, au tout début, quand j'ai commencé l'atelier, j'avais fait un truc tout bleu, que du bleu avec de la craie blanche aussi pour souligner certains aspects du dessin. Et puis, Noé, il a dit, ah, mais c'est une bonne idée, ça. Je te propose de faire des trucs monochromes. Et je me suis attelé au truc tout rouge, un truc tout jaune aussi, mais avec des différentes nuances, et j'ai bien aimé expérimenter cette manière de faire. Après, j'aime bien mettre pas mal de couleurs dans ce que je fais. Il nous a proposé de faire des autoportraits de nous, aussi en grand format, et j'ai fait un truc style, je ne sais plus si on dit l'impressionniste ou quoi, mais en tout cas avec beaucoup de couleurs. C'est assez étonnant, je suis assez content du résultat.
Oui, on aimerait bien voir, vous pouvez le décrire un petit peu, parce que ça doit être compliqué, enfin, j'imagine, de faire un autoportrait de soi, surtout sur un grand format. Comment est-ce que vous avez procédé?
Là, on a utilisé toujours la technique avec le rétroprojecteur. Donc, on a fait plusieurs photos. On a tous fait, enfin presque tous, on a essayé de partir sur cette idée-là. Donc, Noé nous a pris en photo de différentes manières. Et après, on a fait un choix sur celle qui était le plus représentatif ou le plus caricatural, je ne sais pas comment dire. En l'occurrence, ma photo, j'ai la bouche ouverte et on voit bien presque le fond de ma gorge. En même temps, en train d'avoir un visage qui rit comme ça. Et j'ai essayé de mettre... Je me suis inspiré d'après d'autres dessins que j'ai pu voir, comment ils faisaient ressortir les ombres avec différentes couleurs. Donc les côtés ombrés, je les ai mis en bleu foncé. Les côtés avec plus de lumière, je les ai mis en jaune, en rouge, en vert. J'ai essayé de m'inspirer le plus de ces vieux dessins que j'ai pu voir. Et ça a donné un résultat intéressant. Les rides, je les ai soulignées aussi avec des couleurs différentes. Enfin, c'est vraiment, j'ai bien aimé travailler ça, quoi.
Et dans votre travail avec les couleurs, est-ce qu'il y a une couleur que vous préférez ?
Non, non, moi j'aime toutes les couleurs. D'ailleurs, Noé, il aime bien le noir. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une couleur, mais on travaille souvent aussi avec du noir, avec l'encre de Chine, avec le fusain. Avant d'arriver à l'atelier, d'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était un fusain, en fait. J'ai pu faire un grand format au fusain, et puis j'ai beaucoup aimé travailler cette matière. Très sympa, sensoriellement aussi, quand on étale, quand on voit tout de suite le résultat, quand on veut faire des ombres et tout ça, c'est vraiment une matière sympa à utiliser.
En tout cas, je disais que les images sont toujours plus belles à la radio. Quand vous les décrivez, quand vous décrivez cette matière, on le voit, on le perçoit même. C'est assez fantastique de percevoir le fusain sur une toile. Effectivement, c'est quelque chose presque de sensoriel.
Oui, c'est ça. Comme aussi la pastel grasse, j'aime beaucoup quand je peux étaler avec mes doigts et puis avec différents appuis, je peux donner différentes... textures, différents, comment dire, la couleur, elle se diffuse de manière différente selon les appuis que tu donnes avec tes doigts. Et puis c'est toujours, j'aime bien cette sensation.
Le dessin, c'est quelque chose que vous aviez envie de découvrir, de continuer à découvrir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait enfant, par exemple? Est-ce que vous avez dessiné quand vous étiez enfant?
Oui, je dessinais, mais pas forcément, c'était pas mon hobby. Moi, j'étais plutôt allé jouer dans la forêt, faire du vélo, ce genre de trucs, jouer aux billes, les trucs de garçons qu'on faisait à l'époque. Quoi. Parce que maintenant, ils sont tous sur leurs écrans, mais moi, j'étais plutôt jouer dehors. Mais par contre, comme j'ai beaucoup aimé travailler justement la pastel grasse et le fusain, ben, j'ai ramené ces techniques chez moi et je fais des dessins pour moi. J'ai fait les Dents du Midi, j'ai fait le Cervin, j'ai fait des paysages de désert. J'aime bien que, aussi, je peux travailler justement la pastel. Et au fusain aussi, j'ai fait quelques dessins. Ça me prend un temps où je suis concentré sur ce que je fais. Je ne suis pas en train de mouliner dans ma tête. C'est vraiment, je suis concentré sur le moment présent et pas ni dans le regret ou dans l'angoisse du futur. Je suis vraiment dans ce que je fais, c'est ça qui me fait du bien aussi.
C'est presque obligatoire parce qu'autrement le trait risque de partir là où on n'a pas envie qu'il parte ou une couleur arriver alors qu'on ne voudrait pas cette couleur. Ouais. C'est obligé d'être dans l'instant présent quand on est devant une toile.
Hein. Oui, ouais, mais ça devient presque pas automatique, mais quand je me mets devant le truc à faire... Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Comme mon psy m'avait proposé de faire, par rapport à l'écriture, parce que j'aime bien écrire de temps en temps, de faire ce qu'il appelait écriture automatique. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est un truc divinatoire? Tu vas me mettre en contact avec des esprits ou je ne sais pas quoi? Il me dit, mais non, sors-toi ça de la tête. Il n'y a rien à voir avec des démons ou je ne sais pas quoi. C'est juste, tu t'écris tout ce qui te passe par la tête et puis tu regardes ce que ça donne à la fin. Et j'ai fait cet essai-là une fois et puis c'est vrai que c'est étonnant. Ça peut donner des trucs vraiment intéressants, quoi.
Ah, absolument, et les surréalistes avaient bien compris ça aussi. On est dans ce nouveau studio de Pavillon Nomade, alors il manque encore certaines choses, vous l'avez dit, éventuellement des grandes affiches qu'on pourrait récupérer. Quelles couleurs on pourrait mettre, d'après vous ?
Faudrait contraster avec le blanc, là.
Et quelle couleur contraste avec le blanc ?
Le noir.
Oui. Mais par exemple, on a un énorme rideau en velours bordeaux.
On pourrait faire quelque chose en écho, en rouge, qui ferait assez écho à ce bordeaux. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ouais.
Ça peut être sympa, ça?
Oui.
Ouais.
On en a.
C'est vrai?
Oh, on a tout ce que vous voulez.
Ah, je pense qu'on va descendre au studio 6A. On va en reparler. On va écouter une petite musique. Alors, j'ai cherché un petit peu sur les couleurs parce que je savais qu'on vous recevait aujourd'hui. Puis je me suis dit, allez, on va quand même... Parce qu'on va parler d'un jeu de cartes auquel vous avez participé. Donc, les couleurs. Moi, j'ai trouvé une très jolie chanson d'Anne Sylvestre. Et ce que je vous propose, si ça vous dit, c'est de fermer les yeux environ 3 minutes. Et d'écouter les mots nous raconter les couleurs.
Quand tu as les yeux fermés, les couleurs sont douces. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les toucher. Le blanc, ça serait la neige. Le blanc, ça serait le froid. Ça
ce serait aussi l'arpège de la glace sous ton doigt, un courant d'air sur ton front et le piquant de la glace au citron. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs sont bonnes. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les goûter. Le jaune, ça serait la crème, le jaune, ça serait sucré, ça serait tout ce qu'on aime, le bonbon dans son papier, et le miel que fait l'abeille dans le chaud d'un rayon de soleil. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs résonnent. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les chanter. Le rouge, c'est une trompette, c'est ton cri quand tu es gai. C'est rond comme un jour de fête, c'est vif comme un coup de pied, coup de sifflet pour ton chien et son aboiement qui dit je viens. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs embaument. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les respirer. Le vert, c'est comme la menthe, le persil, le romarin. C'est la forêt odorante, la fougère et le sapin. C'est la mousse de velours et c'est l'herbe qui revient toujours. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs sont fraîches. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux t'y baigner. Le bleu, ça serait la source, la rivière et le ruisseau. Même l'eau qui coule douce au fond de ton lavabo. Et la pluie qui va rigoler tout au long de ton toit. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs sont chaudes. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les caresser. Le noir, c'est les couvertures, c'est ton chat tout contre toi. C'est la laine et la fourrure, le velours et l'angora. La chaleur de la maison, quand la nuit se cogne à ton balcon. Les yeux fermés, les couleurs sont neuves. Quand tu as les yeux fermés, les couleurs, tu peux les inventer.
Alors j'avais proposé qu'on écoute Al Silvestre, Les yeux fermés. On n'a pas réussi parce qu'on a devant nous un magnifique jeu de cartes auquel vous avez participé, Jean-Pierre. Dites-nous.
Alors, donc Noé, il a droit des vacances de temps en temps. Donc, pendant une partie de ses vacances, il y a une artiste qui s'appelle Stéphane Lévy qui est venue le remplacer. Et donc, pendant 3 mois, sa proposition, c'était de travailler sur un jeu de cartes. Alors, au départ, on travaillait sur des formats A4. J'ai pas trop adhéré au début parce que justement.
Bah oui, parce que vous, c'est les grands formats.
Exactement.
Donc.
Mais finalement, en me tirant, j'ai été au fur et à mesure du projet plus convaincu. Et maintenant, quand je vois le produit fini, je suis 200% convaincu que c'est un très joli travail qu'on a fait. Parce que c'était un travail d'équipe, un travail collectif. Donc toutes les personnes de l'atelier CISA ont participé. Mais aussi des personnes hospitalisées, des personnes de passage qui sont venues faire soit une après-midi une carte, soit simplement une petite participation. Et il n'y avait pas vraiment de règles pour faire ces cartes. C'était, on avait le droit de remettre notre patte sur la carte d'un autre, ce qui fait que certaines cartes ont été travaillées par 3, 4, 5, 6 personnes. Pour arriver à ce résultat de 128 cartes différentes.
Oui, j'allais vous demander, parce que c'est un joli petit paquet que vous avez devant vous, un paquet de cartes,
oui,
128
oui.
cartes.
Oui.
C'est plus qu'un jeu normal.
Oui.
Parce qu'on est à 36 cartes dans un jeu normal, et puis à 52 ou 56, un jeu de tarot. Alors je sais, j'ai lu que Stéphane Lévy ne souhaite pas trop qu'on utilise le mot tarot, elle préfère le mot oracle, mais entre les deux, on ne sait pas. On ne voit pas vraiment la frontière entre oracle et tarot. Vous, vous dites quoi de ce jeu? Comment vous l'appelez?
Moi, je l'appelle un jeu de cartes. Non, mais c'est surtout l'intention et le but qu'il y a derrière.
C'est ça.
L'objectif de ce jeu de cartes, c'est surtout pour créer le lien entre le soignant et la personne qui serait en difficulté pour s'exprimer, pour arriver à mettre des mots sur ce qu'il ressent ou simplement à mettre des mots tout court, parce que certaines personnes sont complètement bloquées, ils n'arrivent plus à dire quoi que ce soit. Et le but, nous on a marqué comme règle, prends trois cartes, comment c'est écrit ? En tirant trois cartes au hasard, donne-toi le droit de t'exprimer. C'est ça, c'est le... Donc, les personnes peuvent utiliser cette règle de prendre trois cartes et les mettre devant et puis parler, voir ce que ça leur évoque. Et si par ce biais-là, on arrive à faire sortir de leur enfermement certaines personnes qui n'arrivent plus à s'exprimer, ben le but, il est atteint. D'ailleurs, on a déjà eu des retours positifs de soignants qui l'ont utilisé avec des personnes qui, justement, étaient complètement bloquées. Et alors là, en l'occurrence, un des retours que j'ai entendu, c'est simplement une seule carte. La personne a choisi une carte, elle l'a regardée et puis elle a commencé à parler. Donc, je trouve, même s'il n'y a eu que ça, c'est déjà génial. Mais je pense qu'il y a un potentiel vraiment, vraiment bien de ce jeu de cartes.
Et qu'est-ce que ça fait quand on travaille sur du grand format de se retrouver dans un petit format de jeu de cartes ? Pour vous, qu'est-ce que ça vous a fait ?
Ah, mais justement, j'ai dû m'adapter au projet de Stéphane. J'étais un petit peu psychorigide au début et puis ça m'a appris à m'adapter finalement. C'est aussi un peu ça, le studio Cissa, c'est pas seulement Noé ou seulement ce que je fais moi, c'est il y a d'autres artistes qui vont passer et puis on va essayer de rentrer dans leur démarche. Et c'est pas forcément des techniques qui nous plaisent ou quoi, mais voilà, c'est le projet de l'artiste, on va essayer de rentrer, enfin, on ne va pas essayer, pour moi, c'est rentrer dans son projet, qu'est-ce qu'il veut nous faire expérimenter.
Collaborer avec l'artiste. Et là, actuellement, est-ce qu'il y a un artiste qui est en résidence aussi, ça ?
Non, alors maintenant, c'est Noé qui a repris le flambeau.
D'accord.
Donc, on est en train de préparer la vitrine qui est à la cafétéria. En général, on fait des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des volumes, ça prend de la place... Et voilà, puis on la change régulièrement.
Ça, c'est une chose. Et puis la prochaine, c'est l'exposition au Crocheton. On en parle un tout petit peu. Vous nous en dites quelques mots ?
Oui, oui, tout à fait. Donc, il va y avoir une exposition au Crocheton. Le 18 avril à 17h, ça sera le vernissage. Donc, cette exposition, elle permettra de montrer le travail de tous les artistes qui ont travaillé ici en résidence au quartier culturel Malévo.
C'est-à-dire sur quelle période ?
Sur plusieurs années.
Sur plusieurs années,
oui,
ok.
Oui, oui.
D'accord.
Et donc, nous, à l'Atelier Cissa, on sera comme entité, comme un artiste, en fait. Parce que l'Atelier Cissa, ce n'est pas moi, Jean-Pierre, ou Alessia, ou je ne sais pas qui. C'est
le collectif.
C'est le collectif qui compte, ce n'est pas un artiste. On ne fait pas les trucs pour nous, pour les ramener à la maison, on ne fait pas des bricolages. Ça, je déteste cette idée d'atelier d'occupation, comme on peut voir certains ateliers. Je ne peux pas supporter ça, c'est horrible.
Non, mais justement, vous parlez de vos œuvres. Elles deviennent quoi, vos œuvres ?
Alors, pour le moment, elles sont parfois exposées dans la cafétéria, elles sont parfois exposées dans certains pavillons ici à Malévo, dans certains bureaux de médecins aussi. Alors on aimerait bien agrandir, exposer à plus d'endroits, mais pour le moment ça reste un peu confiné à Malévo, la cafétéria, des bureaux. Mais moi je pense que ce serait bien si on pouvait étendre le projet.
Ce qui est le but de cette exposition au Crocheton, j'imagine, et puis ça va ouvrir effectivement à un autre public, à d'autres personnes qui ne viennent pas forcément ici à Malévo. Et ces œuvres qui seront exposées au Crocheton, il y aura une possibilité de les acheter ?
Alors ce n'est pas prévu au programme, malheureusement.
D'accord.
Mais je pense que ça, c'est encore en train d'être...
Mais je ne sais pas si j'ai un coup de cœur. Comment ça va se passer ?
C'est embêtant, mais pour le moment, c'est encore en train d'être discuté. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme prix, pas comme prix ? C'est un peu compliqué. Et ça, c'est un autre métier. Ce n'est pas Noé non plus, c'est encore un autre métier. On m'a dit que c'était des curateurs,
oui.
Le nom du métier.
Ouais.
Et là, je crois qu'on n'a pas encore ça sous la main. Donc pour le moment, mais je pense que c'est un projet qui va avancer dans les mois ou les années futures. Pour le moment, on constitue une collection, on va dire. qui est aussi prise en photo pour faire une sorte de catalogue. Et puis, on verra par la suite. Mais donc, on a la recherche d'un curateur, donc.
Ah bah, l'appel est lancé, hein. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je trouve que vous êtes très éclectique dans votre art, parce que vous faites non seulement des grands formats, il y a eu ce jeu de cartes, et puis vous avez évoqué tout à l'heure la poterie aussi.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites en poterie ?
Alors, je laisse assez travailler mes mains. Je réfléchis pas trop, en fait. Je laisse venir le truc. J'ai pas une idée fixe au départ. Alors, ça donne souvent des formes un peu abstraites, comme ça. Alors, j'ai fait une série. Ça ressemble un peu, quand on les assemble comme ça, ça ressemble un peu à du corail, comme ça, avec un peu une forme champignonnesque. Il y a une pièce qui est assez forte, comme ça, ça ressemble à une mandibule d'un monstre avec des dents pointues. Je suis assez content du résultat, parce qu'on a pu utiliser aussi un émail qui donne argenté, comme ça, une fois que c'est cuit. Donc, ma mandibule, elle a des dents pointues et argentées. J'ai fait des faces aussi, des visages humains, un peu torturés, comme ça, avec l'émail, on peut se permettre de faire des coulures et des choses comme ça, puis... Les visages que j'ai faits, ils sont souvent en train de pleurer ou de la bave ou des choses comme ça. C'est un peu gore, un peu noir, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette expression-là, d'un personnage un peu gore, d'un personnage un peu triste ?
Triste. Ben, je crois que j'ai un peu de problème avec cette émotion de la tristesse. Je la garde un peu trop enfermée.
Donc vous l'exprimez vous l'exprimez aussi sur vos tableaux ?
Non, pas forcément. Là, j'essaie plutôt de mettre des couleurs de la joie ou comme ça. Ouais. C'est plus joyeux. Bien que j'aie fait des trucs avec des crânes et autres, mais c'est pas mon but. Mais dans la matière, là, ce que j'ai pu faire, ça m'a fait sortir ça. Mais comme j'ai dit, c'est pas thérapeutique. J'ai laissé mes mains faire, j'avais la matière dans la main, puis c'est venu naturellement ces formes de visage. Puis c'est après coup, j'ai dit, ah bah ouais. Ça m'a fait sortir ça, quoi. Mais ce n'était pas l'objectif au départ. C'est après, je me dis, ah bah oui, quand j'ai rajouté l'émail, je me dis, ah bah tiens, celui-là, je pourrais le faire pleurer, celui-là, je pourrais le faire baver. Enfin, c'est...
Bah, peut-être que vos mains ont juste continué vos pensées, faire sortir vos pensées, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne fais pas comme ça une analyse. Cette exposition au Crocheton, elle a lieu jusqu'à quand ?
Alors, si j'ai bien compris, ça va durer jusqu'au mois d'octobre.
D'accord. Ah oui, donc on va avoir le temps de venir voir les œuvres et de découvrir les artistes. Oui. Vous serez présent aussi régulièrement ou bien qu'au vernissage le 18 avril ?
C'est pas prévu qu'on soit là tout le temps, non.
D'accord, mais on peut rappeler qu'effectivement, le 18 avril à 17h, il y aura le vernissage en compagnie du collectif du 6A et puis d'autres artistes qui ont exposé ici au quartier culturel de Malévaux. En parlant un tout petit peu, avant de commencer cette émission avec vous, Jean-Pierre, vous m'avez dit que vous étiez fan de moto.
Oui. Vous voulez en savoir plus ?
Oui, volontiers.
En fait, c'est un vieux rêve que j'ai d'enfant d'avoir une vraie moto, une grosse moto, et que j'ai laissé tomber parce que la vie m'a emmené dans un tas d'autres chemins. Et j'ai enfin réalisé ce rêve de passer le permis entre guillemets, d'une vraie moto à 50 ans. Et maintenant, je me balade avec une Honda CBF 1000. Elle m'a permis de m'emmener un peu partout. Je suis allé en Italie jusqu'à Rome. Je suis allé en France, jusqu'au bord de l'Espagne, vers Perpignan cet été. Non, c'était au mois d'octobre. Cet été, j'ai fait une partie de la route des Grandes Alpes avec tous les cols, tout ça. C'était vraiment chouette. En fait, depuis que je l'ai, la nouvelle que j'ai, là, ça fait une année, j'ai bientôt fait 27 000 km.
Waouh!
Ouais, j'ai bien roulé. Ouais.
Ah oui,
ouais.
Effectivement. Mais depuis tout petit, vous aviez envie de faire de la moto. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur.
J'ai passé le permis 125 et puis j'ai roulé. Ben, j'étais à Genève à l'époque, alors c'était surtout utilitaire. Avec une 125, tu ne peux pas faire des longs voyages. Enfin, tu peux, mais c'est un peu plus compliqué. Mais dans mon idée, ça c'était mon idée d'enfant, c'était d'avoir une grosse moto pour faire des grands voyages. Ben, c'était une idée d'enfant et des fois, quand on devient adulte, on perd ses rêves d'enfant. Et puis
pas toujours.
Mais justement, là, le temps est passé et puis je me suis dit, mais j'avais ce rêve-là, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de le réaliser. Puis ça tombait justement dans une période où ça allait pas vraiment, je sentais que mon humeur descendait, je voyais pointer la dépression, j'ai dit, ouais, Jean-Pierre, si tu fais pas quelque chose, si tu mets pas un projet concret en place avec des étapes, ça c'était en 2020, je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas passer l'année, ça va être la catastrophe, quoi. Donc du coup, le fait de passer ce permis, de toutes les étapes qu'il y a à faire avant d'y arriver, parce que même si j'avais le 125, puis après j'ai eu le permis 35 km, là, j'avais pas roulé une grosse moto avant. En fait, j'ai un peu, comment dire, passé par la bande pour passer directement au permis illimité. Parce que normalement, j'aurais dû rouler pendant 2 ans avec une 35 kW. Mais c'était juste avant le Covid. Et le Covid est arrivé, il s'est passé 2 ans. Et je n'ai pas roulé du tout. Et après, je suis allé au bureau d'auto, je me dis, tiens, mais je ne peux pas passer directement le permis.
Bah voilà.
Il me dit, bah voilà, oui, tenez votre permis. Alors, je suis passé d'une 125 à une 1000 sans transition. Mais c'est une sensation de liberté, une sensation de responsabilité aussi, parce que c'est tellement vite fait d'être mort, en fait, que chaque fois que je prends la route, quand je me mets sur ma moto, je deviens l'homme invisible.
Parce ah que bon
je, oui, je sais que personne ne va me voir. Donc, moi, je n'ai pas de priorité, puisque personne ne me voit. Je suis transparent, quoi. Donc,
à chaque fois que vous êtes sur votre moto, vous êtes l'homme invisible.
Oui, c'est ce que je me dis. Comme ça, je sais pourquoi les gens ne me voient pas. Et je ne suis pas étonné qu'ils me coupent la priorité, puisqu'ils ne me voient pas. C'est normal pour moi. Je ne m'énerve plus. Parce qu'au début, je ne me disais pas ça. Et je m'énervais constamment contre ces automobilistes qui ne faisaient pas attention à moi. Mais maintenant que je sais que je suis l'homme invisible, je ne m'énerve plus.
Pas mal comme technique. Ah oui, c'est effectivement intéressant. Et bah vous l'évoquez, le danger, quand même, il y a un certain danger en étant sur une moto. Oui. Comment est-ce que vous le percevez? Bon, alors vous êtes l'homme invisible, certes, mais
On a souvent parlé de moi comme quelqu'un qui a des conduites hors d'allée, qui disent.
C'est-à-dire
ouais, qui aime bien se mettre en danger de mort. Mais je dirais, moi, je ne vois pas la moto comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a un danger, mais si tu es conscient de ce que tu fais. Par exemple, l'année passée, j'ai fait un cours de perfectionnement pour la prise d'angle et les freinages d'urgence, ce qui me met encore plus en sécurité. Si tu es conscient de ce que tu fais et conscient de ce que les autres font, tu forces pas la... Je ne veux pas dire que tous les motards qui se tuent, c'est de leur faute, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Mais dans ma tête, je ne suis jamais le plus malin, je ne me dis pas que ça va passer. Si je vois qu'il y a moins de possibilités que ça ne passe pas, j'attends... Pour faire un dépassement, par exemple, je ne m'autorise jamais de faire un dépassement sans visibilité. Ce n'est pas parce que j'ai de la réserve avec mes 100 petits chevaux que j'exagère avec ça, quoi. Mon plaisir à moi, c'est de faire de la balade, c'est d'aller en montagne, faire des cols, ce genre de trucs. Et il n'y a pas besoin d'aller à 180. Juste déjà bien négocier les virages en montagne, c'est déjà un super kiff, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à 200.
Est-ce qu'il y a un endroit où vous aimeriez aller avec votre moto?
Alors, j'avais le projet, mais je ne sais pas si je vais encore le réaliser, mais c'était un de mes projets. J'aurais bien voulu aller voir le soleil de minuit en moto. Ça fait 8000 km aller-retour, aller jusqu'en Norvège. Mais ça demande quand même une certaine préparation déjà de la machine, avec aussi peut-être transporter des pièces détachées entre deux, et une certaine organisation. Mais j'aimerais bien quand même réaliser ce truc-là, aller au Cap Nord et voir le soleil de minuit avec ma moto.
Et la route 66?
Alors, l'Amérique, je suis déjà allé, et puis en fait, je n'ai pas envie de retourner là-bas, vu la politique qui s'y passe, je n'ai pas envie que... Pour moi, le voyage, c'est aussi cautionner ce qui se passe dans le pays, pour moi. Hein. Après, chacun voit les choses comme il veut, mais je n'irai pas dans un pays autoritaire comme ça, quoi. Pour moi, il y a clairement une dérive autoritaire qui se passe là-bas, et puis c'est dommage, quoi, un pays soi-disant de la liberté qui est devenu un pays de l'enfermement et de la stigmatisation de tout ce qui est différent, ça ne me va pas, quoi.
Vous avez évoqué, Jean-Pierre, à l'instant, cette notion de liberté. La liberté en chanson et en musique a été de très nombreuses fois interprétée, alors que la moto, pas tellement. Donc, j'ai cherché, et c'est une chanson de Motorhead que je vous propose d'écouter, Iron Horse, cheval de fer. Ça tombe plutôt bien. C'est le grand écart à Pavillon Nomade entre Anne Sylvestre et Motorhead. Et la voix reconnaissable entre toutes de Lemmy Kilmister avec à la batterie Phil Taylor et Eddie Clarke à la guitare. On a eu la chance et l'immense privilège de rencontrer l'année dernière Luca Fox, le batteur de légende et fondateur du groupe avec Lemmy. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur le site www.pavillonnomade.ch. On accueille Joël. Bonjour Joël.
Bonjour tout le monde.
Merci de nous rejoindre autour de la table. Je vais revenir vers vous dans un tout petit instant. Je vais juste rester encore un petit moment avec Jean-Pierre. On a parlé de la moto et de votre envie d'aller voir le soleil de minuit dans le Grand Nord. Mais ça veut dire apprendre une langue. Ça veut dire savoir réparer sa moto, j'imagine, parce que vous avez parlé des pièces détachées qu'il faut envoyer ou qu'il faut prendre avec. Et ça veut dire trouver un logement sur 8000 km. Comment est-ce que ça se prépare, tout ça ?
J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont fait, de pouvoir discuter avec eux un peu de l'organisation qu'ils ont eue. Ils ont dit qu'il ne fallait pas prendre la tente, par exemple. Enfin, tu peux prendre la tente, mais pour le dernier bout, ils te regardent avec des gros yeux parce qu'en en fait, ils ont plutôt un genre de petit motel au bord de la route. Quand tu vas dans un camping, pour eux, le camping, c'est tu vas dormir dans des trucs fabriqués, pas avec une tente. Et du coup, il faut aussi prévoir un certain budget. Donc, cette année, je ne sais pas si j'aurai le budget. Mais comme tu l'as dit, ça m'a demandé aussi certaines compétences. Par exemple, il faut que je sache retendre ma chaîne tout seul. Je ne peux pas m'arrêter parce que tous les 2000, 3000 kilomètres, il faut retendre la chaîne. Et puis, ce n'est pas une manipulation qui est très compliquée. Mais ça me demanderait quand même quelques compétences en plus que je peux acquérir. Et j'ai vu qu'il y avait un atelier qui apprend ses réglages de base à faire sur sa moto. Et ça, il faut que j'acquière ça. Après, je peux m'arrêter dans des garages, mais c'est peut-être pas le plus simple. Et les 1000 premiers kilomètres, je vais m'économiser aussi en mettant la moto pour traverser l'Allemagne sur le train. Ça serait une bonne chose aussi. Comme ça, au lieu de 8000, ça fera plus que 6000 kilomètres. 6000, c'est déjà pas mal, quoi.
Oui, il me semble. Et par rapport à la langue, comment est-ce qu'on se débrouille ? On se débrouille avec l'anglais, j'imagine.
Alors, j'ai pas encore réfléchi à la langue. Alors, maintenant, je suis en train d'apprendre l'italien, mais j'aimerais bien apprendre l'anglais. Alors, peut-être qu'avec l'anglais, que j'aurai appris plus les compétences que je vais acquérir pour la moto, je vais y arriver sans autre. Parce qu'avec Google Trad et autres, maintenant, on arrive très bien à se débrouiller. Hein. Pour moi, c'est pas un souci. Il faut pas avoir peur de voyager à cause des langues, à mon avis. Hein. J'avais déjà pas peur avant. Je vois pas. C'est pas ça qui me bloquerait. Ce qui me bloquerait, c'est plutôt justement d'avoir une machine mal préparée qui casserait au milieu du chemin, par exemple. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver si elle est mal préparée. Il faudrait qu'elle soit vraiment toute en ordre avant de partir. Que j'aie juste quelques petites choses à faire entre deux. Mais 8000 km, c'est quand même beaucoup demandé à une machine, quoi. Même une 1000 cm3. Quoi.
Justement, vous parlez de votre moto, une 1000 cm3. Je n'ai aucune notion en moto, mais j'imagine que c'est quand même une grosse moto. Ça veut dire qu'on commence quoi, à 125, et après il y a 500, il y a 1000, et on va au-delà après ou c'est quoi les normes en moto ?
Alors, la réglementation maintenant, pour les 125, maintenant, il faut juste faire une douzaine d'heures de cours. Après, il faut avoir roulé un certain nombre d'années et puis tu peux passer le permis 35 kW, ce qui correspond à 48 chevaux. Et tu es censé rouler pendant 2 ans avec cette moto-là qui n'est pas trop puissante. Et après ces 2 ans, tu peux te présenter au permis illimité où tu peux avoir des motos qui, pour moi, ça nourrit surtout l'ego, mais tu as des motos qui vont jusqu'à 180 chevaux et plus, quoi. Mais bon... la mienne qui a déjà 100 chevaux, je fais de 0 à 100 en 4 secondes, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de plus que ça, quoi.
J'imagine. On vous accueille, Joël. Merci d'être là. Vous tenez la buvette du quartier culturel.
Exactement. Je travaille à 40% donc à la buvette du quartier culturel. Maintenant, ça fait 3 ans. Je suis très, très contente.
Et on va vous retrouver régulièrement, prochainement, autour du micro à Pavillon Nomade, parce que vous allez nous proposer une chronique. Ça va consister en quoi ? Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous dire, sans trop dire, bien évidemment, on va laisser un petit peu de suspense.
Alors, si je vous dis économie, écologie, éco-responsable.
Je suis en train de presque jouer au jeu de cartes quand j'entends ces trois mots.
Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est de pouvoir donner des astuces aux personnes qui veulent bien l'entendre pour économiser de l'argent, pour ne pas gaspiller, pour faire du tri, pour gagner un peu d'argent aussi. On a tous dans nos placards des trucs qu'on n'utilise pas. Il y a des gens qui jettent des choses qui sont encore bonnes dans les frigos. Donc, on peut passer du vêtement à l'alimentation, à l'aspirateur qui était absolument indispensable, mais qui traîne dans un coin, et un tas de choses comme ça. Donc, pour se faire une chronique Donc chaque jeudi, de pouvoir parler d'un sujet important, de donner, voilà, de dire le fromage, vous pouvez garder tant de temps, la plaque de beurre, la même chose. Ça, c'est aussi très économique. Ça évite aux gens de perdre de l'argent et de ne pas gaspiller. Parce que, au fait, le grand gaspillage, il ne se passe pas dans les grands supermarchés. Le plus grand gaspillage, c'est dans nos maisons. Le tri aussi. On espère tous avoir le blue jean qu'on a gardé pendant 10 ans dans l'armoire, en espérant en vain, je vais pouvoir peut-être tourner dedans. Alors qu'on a grossi, et puis à un moment donné, il faut s'en débarrasser ou le revendre. Et il y a plein de petites astuces, de petits sites où on peut revendre des accessoires, des appareils et des vêtements. Il y a aussi des magasins qui reprennent des vêtements. Même s'il manque un bouton ou qu'il y a une couture qui a lâché, ils les réparent, ils les lavent, ils les rénovent et ensuite ils les revendent à moindre prix pour les personnes qui aiment le vintage, qui ont peu de moyens ou qui n'ont pas forcément envie de dépenser énormément dans l'habillement.
Bon, je crois qu'on est tous et toutes en train de vous approuver autour de la table parce que ce sera une très très jolie chronique que l'on va découvrir. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre ?
Alors j'adhère à 200% à cette idée. D'ailleurs, je suis complètement là-dedans. Je fabrique ma lessive moi-même. Mon principal ingrédient pour nettoyer les sols et autres, c'est du savon noir liquide qui est vraiment pas cher. Pour le calcaire, j'utilise du vinaigre. Enfin bref, j'utilise que des trucs comme ça qui ne me coûtent rien du tout. Je n'ai pas encore fabriqué, mais ça va venir pour faire le lave-vaisselle. Ça sert aussi à me faire économiser pas mal.
Bon, pour le lave-vaisselle, c'est de l'huile de coude. Hein.
Non, alors non, figurez-vous que non, parce qu'un cycle d'un lave-vaisselle, c'est 16 litres d'eau maximum. Et clairement, toutes les études prouvent qu'on utilise plus que 16 litres pour faire 3 assiettes, 2 verres, les fourchettes, les cuillères, tu utilises plus que 16 litres. Donc, au niveau de l'économie d'eau, le lave-vaisselle est plus compétitif.
Ah, mais on tient quelque chose là, alors, entre Joël et Jean-Pierre.
Non, mais je pourrais donner des recettes maison. Ça, c'est pas un souci. Hein. Il y a assez de gens qui donnent. Il y a peu de gens qui savent que le vinaigre, si vous le rincez bien, votre bouilloire, elle ne pue pas le vinaigre. Moi aussi, j'utilise du vinaigre. Pour le lave-vaisselle, bon, après, on n'a pas tous un laboratoire à la maison, mais de choisir un produit dans certains centres avec un packaging en carton pour éviter de remplir la poubelle. Pour la lessive, la même chose. Si on a une lessive qu'on aime bien, on ne va pas changer la lessive, mais de trouver cette même lessive. Et maintenant, dans les grands centres, ils le font plus en plus, c'est ces paquets recharge. Toujours voilà, être à l'affût de ces choses-là. Et puis, donner toutes mes astuces, mais ça, vous en parlerez à la langue.
Mais absolument, et ça va être vraiment très très bien de vous entendre, Joël, nous partager ces astuces. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette future chronique qu'on va retrouver sur les ondes de Pavillon Nomade. On se réjouit beaucoup de vous accueillir en tout cas autour de la table. Merci.
Merci, c'est très gentil. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.
À bientôt, Joël. Merci.
Au revoir.
Jean-Pierre, on a parlé un tout petit peu de musique et vous nous avez dit comme ça, en douce, que votre musique, vous, ça pas franchement Motörhead ni Al Sylvestre, c'est
le reggae.
Le reggae. Alors, on s'est tourné vers Pascal et je crois qu'il a un morceau à vous proposer. On l'écoute.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, oh, tell me, heaven is under the earth. Thank you.
thing and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unhurt. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you
gonna we gonna do? Stand up for
yeah,
our rights,
yeah,
so
yeah.
You better
get up.
Incontournable, incontournable musique lorsque l'on parle reggae, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Tout à fait.
Oui, ça vous a plu ?
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce que vous écoutez d'autre comme musique, à part le reggae ?
J'écoute le silence qu'il y a dans ma tête. Non, j'aime beaucoup la musique, j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, mais maintenant j'ai moins besoin de remplir mes oreilles de sons, quoi. Depuis que, je ne sais pas si c'est le traitement ou je ne sais pas, mais ce qui se passe dans ma tête est beaucoup plus supportable et j'aime bien le calme en fait. Alors, autant j'aime voyager en moto et c'est vrai que c'est assez bruyant, je mets des trucs dans les oreilles pour ne pas être...
C'est ce que j'allais vous poser comme question parce que c'est bruyant la moto quand même.
Ouais, mais je vais dans des endroits qui m'apaisent aussi en fait. Donc je vais à la montagne ou je vais, comme je suis allé à Rome, je suis allé dans des endroits... Il m'apaise, en fait. Ça fait le contraste. Il y a le côté bruyant de la machine, le côté où tu es au vent, mais ça t'amène à des endroits où tu trouves la paix. Mais maintenant que ça va beaucoup, beaucoup mieux aussi, j'ai trouvé la paix intérieure. Je n'ai pas forcément besoin de toujours remplir de sons, ni ma maison, ni mes oreilles, ni tout le temps, quoi. Étonnant. Hein.
Intéressant. Ce départ pour le soleil de minuit, c'est pour quand ?
Disons que je l'ai mis dans ma bucket list. Il y a plusieurs choses que je veux faire avant de mourir. Alors, je vais me donner peut-être une année de plus. Je pensais le faire cette année, mais il y a encore d'autres trucs à faire, comme faire un saut en parachute, par exemple. Je vais voir lesquels je vais mettre avant ou pas.
Ah oui, c'est pas tout à fait dans le détail, là. Hein, ouais. Faire un saut dans le parachute, en parachute.
Ouais.
Pourquoi cette envie ?
Mais j'ai été un pratiquant de parapente pendant 30 ans. Et j'ai eu plusieurs accidents et maintenant je suis un peu revenu. Je pense, je disais que c'était pas dangereux, mais en fait, je me suis quand même abîmé pas mal le corps. Tu me diras, le parachute, c'est aussi dangereux, mais j'irai avec un moniteur. Et puis, je pense le faire qu'une fois, ça ira. Et j'ai trouvé un pote qui va me suivre. Alors, je lui ai proposé, il est à la retraite. Et il m'a dit, ouais, on le fait ensemble. Alors maintenant, on est deux à se challenger, on va le faire, quoi.
Et ça, c'est prévu prochainement ?
J'ai pas de date, mais cette année, je vais le faire. Ouais.
C'est quoi ? C'est la notion de liberté, comme en moto ? C'est cette notion de planer ?
Non, je suis accro aux émotions fortes, un peu, quand même.
Ah, quand même ?
Ouais, quand même.
Vous l'avouez, quand même ?
Bah ouais, la moto aussi. Même si je suis prudent, ça procure quand même des émotions fortes, quand même.
Donc, le parachute, c'est cette année ?
Oui. Ma soleil de minuit, je pense que ça sera plutôt l'année prochaine. Il faut que
D'accord.
j'économise. Mais on peut faire écho justement à ce que vient de dire
Joël.
Comment économiser Je me rends compte que les projets que j'ai dans ma tête, il va falloir quand même que j'aie un certain budget. Et je ne vais pas tirer sur une carte de crédit. Quoi. Je préférerais plutôt couper en deux. Donc, je vais plutôt, cette année, essayer de stabiliser le plus possible ma situation financière pour pouvoir mettre en place des projets et économiser pour ces projets-là, quoi. Donc, je vais reporter tout ça l'année prochaine. J'ai dit avant de mourir, hein, j'ai le temps. Hein, c'est pas.
Ah, bah oui.
Je suis pas obligé de faire ça demain.
Pas pressé hein. Non plus, hein. On est d'accord.
J'ai au moins une trentaine d'années devant moi, donc.
Ça au va minimum. Aller. Au minimum. Donc plein de projets encore.
Oui,
c'est
à fond,
c'est ce qu'il faut vous souhaiter, oui. Jean-Pierre. En tout cas, merci de cet échange. Merci d'être venu ici à Pavillon Nomade parce qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Cette émission est disponible sur le site www.pavillonnomade.com. On va se retrouver jeudi prochain, même heure, même lieu, dans ce nouveau studio qu'on va peut-être agrémenter de quelques affiches de Jean-Pierre, qui sait. Et puis, on retrouvera aussi la rencontre que je vous propose avec Éric Giraudet. Et puis, on attend toutes et tous avec grande impatience le retour de la ménagerie d'Eliane. Merci à Dominique et à Pascal. Et on va se quitter avec un tout petit peu de musique classique parce que ça fait du bien d'une part et puis de d'autre part, on voit dans le jardin de Malévo les fleurs pousser. Donc ça veut dire que le printemps arrive et si le printemps arrive, Vivaldi aussi.